Entre le feu et la glace, il y a nous, nos parcours chaotiques et des asiles de fous. Des mauvaises graines semées aux grandes dames de leurs écoles qui nous promettent sans vergogne un avenir décapité. Poiscaille charcutable, taillable et malléable. Et des flics alcooliques qui attendent que de se mettre à table. Des bâtards de cobayes, voilà ce qu'on a fait de notre sort. T'étonnes pas qu'on s'en aille ailleurs écrire le carnet de bord. Acharnement judiciaire, contrôle musclé. Croire qu'on cherche à plaire serait la thèse la plus erronée. Au milieu de ça rien, on observe de près, de loin, les années qui s'écoulent à cogiter comme des chiens. Les techniques sont variées, certains ont la fibre de boucher et d'autres opèrent en chirurgien confirmé. Il s'agirait de terrorisme et de sabotage, d'intégrisme, d'extrémisme et de brigandage. T'inquiète, ils ont trouvé le moyen de te faire taire à coup de recommandés ou de spots publicitaires. Quelques âmes charitables dans le milieu de la police ne parviendront pas à faire peser le balancier hors du vice. Alors, tu veux que je te réponde quoi? Qu'accomplir son sale boulot relève encore du bon droit. Ferme-la, pas de théorie bien pensante. Je commence à comprendre les règles de ce jeu dont ils sont partie intégrante.
Est-ce que les luttes féministes doivent passer par un recours plus important au système pénal? Avant de répondre à ça, parce qu'il faut quand même un peu de suspense et garder la réponse pour la toute fin, il faut avoir une perspective historique qui est, alors vous inquiétez pas, on va juste remonter aux années 70. Aux années 70, deuxième vague du féminisme, la question des violences à caractère sexuel prennent une place importante dans ce moment du féminisme. Et il n'y a pas une évidence qu'il faudrait davantage punir les auteurs de violences à caractère sexuel pour faire diminuer ces violences. C'est loin d'être une évidence. Il y a à cette époque-là beaucoup de réflexions sur des approches non punitives des violences à caractère sexuel. Ce qui se passe en l'espace d'une décennie, c'est ensuite les années 80, c'est qu'on est là totalement dans une acceptation. Ça va devenir un impensé qu'il faut absolument recourir à la punition des violences à caractère sexuel et que c'est de cette manière-là qu'on va lutter contre les violences à caractère sexuel. Ce renversement est ce qu'appellent certaines chercheuses états-uniennes un tournant punitif du féminisme. Il n'est pas en fait propre au féminisme. Il s'observe dans un certain nombre de luttes qui étaient à la base des luttes émancipatrices, que ce soit les luttes LGBT, les luttes antiracistes. On va voir ce même tournant punitif. Et donc, on a une montée en puissance de cette idée que l'émancipation va pouvoir s'appuyer sur le système pénal et sur des approches punitives. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on écoute les courants dominants du féminisme, ça semble une évidence qui n'est jamais discutée. Alors, je pense que c'est nécessaire de décortiquer, en fait, ce qui aujourd'hui nous apparaît comme une évidence. Lorsque les courants dominants du féminisme nous disent aujourd'hui qu'il faudrait une impunité zéro, elles nous disent donc qu'il faudrait incarcérer de façon systématique tous les auteurs de violences à caractère sexuel. Ce qu'elles ne nous disent pas, c'est ce qu'impliquerait la réalité de ce projet. On évalue aujourd'hui en France le nombre de viols à au moins 50 000. On dit parfois même 70 000 viols sont commis tous les ans. Donc en clair, le projet, c'est d'incarcérer tous les ans 50 à 70 000 personnes auteurs de viols. Et puis si on pense aux agressions sexuelles, on pourrait même dire, le projet c'est d'incarcérer environ 100 000 personnes tous les ans. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, il y a 70 000 personnes qui sont en prison. Donc le projet, c'est d'avoir au moins autant de personnes incarcérées tous les ans qu'il y a aujourd'hui de personnes en prison. Puis là encore, c'est des estimations un peu à la louche, mais en se disant que ces personnes seraient condamnées à une peine de 10 ans, ça veut dire qu'à un horizon de 10 ans, on aurait au moins 700 000 personnes incarcérées en France. Aujourd'hui, on a 200 prisons en France. Si on multiplie par 10 la population pénale, parce que tel est le projet, ça veut dire d'avoir 2000 prisons en France, en clair, d'avoir une vingtaine de prisons par département. Donc ça, les courants dominants du féminisme, quand ils nous disent « mais il faut systématiser les plaintes, il faut systématiser les poursuites judiciaires, et puis il faut incarcérer et prononcer des peines qui sont lourdes », ne nous disent pas que le projet, c'est d'avoir des centaines de milliers de personnes incarcérées. Et je pense que ça mérite discussion. Est-ce qu'on veut vraiment avoir ce projet-là d'incarcérer des centaines de milliers de personnes? Ça me semble d'autant plus intéressant de le discuter que ce projet-là repose sur une hypothèse qui est extrêmement forte et qui n'est jamais discutée par ces courants féministes, qui est l'hypothèse de l'effet dissuasif de la peine. L'effet dissuasif de la peine, c'est l'idée que ça va dissuader à la fois la personne qui est condamnée de commettre des faits similaires une fois sa peine peine purgée, mais aussi que ça va dissuader d'autres personnes de commettre des délits ou des crimes similaires. Cette hypothèse de la dissuasion, elle est en fait extrêmement fragile. Elle est fragile parce que elle s'appuie sur le présupposé que les personnes font un calcul rationnel avant de commettre un délit ou un crime. Alors, certes, on sait que pour certaines activités délictuelles, les personnes ont un type de raisonnement rationnel. Si vous décidez de voler dans un magasin, je vous conseille d'avoir un raisonnement rationnel, c'est-à-dire de vous dire quelle est la chance que le vigile m'ait repéré. Et là, vous voyez qu'il y a des faits comme d'être blanc ou d'être pas blanc qui va intervenir. Et puis, est-ce que je cours assez vite? Et puis, si je me fais attraper, quelles sont les conséquences sociales de cette arrestation? Est-ce que c'est l'épicerie en bas de chez moi et ça va être très embêtant? Est-ce que j'ai déjà un casier judiciaire et ça risque de prendre des proportions, etc. Vous faites ce type de calcul. Mais ça fonctionne en fait pour ce type de délit, de faits, alors qui peuvent avoir des conséquences très graves. Mais en fait, lorsqu'on regarde les violences à caractère sexuel, les violences conjugales, en fait, ce calcul rationnel, il existe assez peu. Il existe encore moins pour les faits les plus graves. Et donc, on peut reprocher ça, à mon sens, au mouvement dominant du féminisme, à la fois de ne pas nous dire quelle est la réalité concrète de ce projet de criminaliser tous les auteurs, et puis à la fois de ne pas vraiment nous dire l'incertitude de l'effet de la criminalisation sur le niveau des violences et des crimes à caractère sexuel. En clair, est-ce que ça va diminuer les violences et les crimes à caractère sexuel? Rien n'est moins sûr. Alors, c'est vrai que les luttes féministes s'intéressent assez rarement aux femmes incarcérées. Alors, avec des exceptions, je pense qu'on a tous en tête le cas de Jacqueline Sauvage, où il y a eu des mobilisations féministes pour de bonnes raisons, puisque c'est vrai que son cas était scandaleux. En même temps, j'ai eu quelques regrets sur cette histoire-là, puisque ça n'a pas permis d'élargir le débat à la question des femmes incarcérées. Pourtant, il y avait des belles passerelles qui auraient pu être faites à ce moment-là. Alors quand on regarde qui sont les femmes incarcérées, et lorsqu'on essaie d'en avoir une analyse féministe, il y a plusieurs choses qui sautent aux yeux, à commencer par le fait qu'une proportion extrêmement importante d'entre elles ont été victimes de violences à caractère sexuel ou victimes de violences domestiques. Alors cette victimation est rarement la raison directe pour laquelle elles sont incarcérées. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas en prison parce qu'elles se sont défendues ou parce qu'elles ont posé un acte en conséquence directe de cette victimation, mais ces violences domestiques ou ces violences à caractère sexuel expliquent une trajectoire sociale, ont façonné parfois un parcours d'exclusion sociale, c'est parfois des violences domestiques ou des violences à caractère sexuel qui vont faire que certaines femmes vont partir du domicile familial ou du domicile conjugal. C'est aussi parfois une longue expérience pour elles de difficultés à accéder à de l'aide. Elles vont essayer d'obtenir de l'aide de certaines institutions, voire de la police, et le fait que toutes ces institutions ne les aident pas va ancrer un parcours d'exclusion sociale. Et donc le fait que beaucoup de femmes qui sont incarcérées sont incarcérées de manière indirecte parce qu'elles ont été des victimes de faits qui sont liés à leurs conditions de femmes, c'est à mon sens une lacune des mouvements dominants actuels du féminisme, de se désintéresser de cette population. Alors après, il n'y a pas vraiment de hasard dans ce désintérêt des courants dominants du féminisme pour les femmes incarcérées. Il s'agit là pour l'essentiel de femmes qui, comme pour les hommes incarcérés, sont issues des milieux populaires, appartiennent pour une grande partie d'entre elles à des minorités ethniques. On a aujourd'hui, avec les courants dominants du féminisme, un féminisme qui propose pour l'essentiel une vision universelle universaliste, hein, qui se désintéresse des besoins spécifiques des femmes des milieux populaires, qui a beaucoup de mal avec la question de la classe et de la race. La question des proches de personnes incarcérées, ça a été au début de mon cheminement à la fois intellectuel, de réflexion sur la prison, mais aussi de mon parcours militant. Ça a été extrêmement important aussi pour mon parcours féministe, parce que devant les portes des prisons, il y a pour l'essentiel des femmes. Et qu'on attend davantage des femmes que des hommes qui sont détenus. C'est pas quelque chose qui est spécifique à la prison, c'est au contraire quelque chose que l'on connaît assez bien dans toutes les épreuves de la vie, hein, que les hommes sont davantage soutenus que ne le sont les femmes. Hein, par exemple, dans les cas de maladie, on sait que les hommes ont davantage de chances de bénéficier de la solidarité de leur conjointe que lorsque les femmes ont une maladie grave. Et donc, avec l'incarcération reproduit cette attente différentielle, hein, à l'égard des hommes et des femmes. Et donc, les attentes sociales reposent pour l'essentiel sur les femmes à qui on demande une solidarité matérielle, financière, mais aussi une part de travail émotionnel, hein, le soutien aux personnes qui sont détenues et donc aux hommes. Alors, ce qui me semble intéressant d'un point de vue féministe, c'est que lorsqu'on regarde la prison, non pas simplement comme une institution qui enferme pour l'essentiel des hommes, hein, parce que l'essentiel des personnes qui sont incarcérées aujourd'hui sont des hommes, hein, mais lorsqu'on ne regarde pas uniquement qui est en prison, mais quand on regarde qui est affecté par l'existence de la prison, bah on se rend compte que certes, c'est les hommes qui sont à l'intérieur, mais c'est énormément de femmes qui sont à l'extérieur. Alors, il y a aujourd'hui en France 70 000 personnes qui sont incarcérées, mais on estime qu'il y a au moins 500 000 de personnes, hein, tous les ans, qui ont un proche incarcéré. Et donc, de penser la prison non pas simplement comme une institution qui enferme, mais aussi comme une institution qui a un impact sur les personnes qui sont à l'extérieur, ça permet, d'un point de vue féministe, aussi de penser la prison comme une institution qui a des effets très spécifiques sur certaines catégories de femmes. Hein, parce que la prison, ça n'arrive pas à n'importe qui, hein, ça arrive à certains types de populations. Et lorsqu'on dit ça, bah, on dit qu'il y a certaines femmes aujourd'hui dans la société française pour qui le fait d'avoir des proches incarcérés est une expérience beaucoup plus banale que l'on pourrait le croire, hein, dans certains quartiers populaires, dans certaines populations issues des migrations et de la colonisation. Le fait d'avoir des proches qui sont en prison, d'avoir à apporter des sacs de linge, d'aller au parloir, d'avoir à envoyer des mandats, c'est une expérience qui n'est pas si rare que ça. Et donc, à ce titre, lorsqu'on pense la lutte abolitionniste et quand on pense qui est le sujet politique des luttes abolitionnistes, bah, si on a déplacé ce regard de seulement l'intérêt de la prison et qu'on a élargi ce regard, la question des proches de personnes incarcérées prend toute son importance et apparaît la légitimité entière de leur place dans les luttes abolitionnistes.
Quand la justice dresse ses plombs au bûcher, que la chasse aux sorcières est ouverte et déclarée, à force de faire peur, ils contrôlent ce qu'ils veulent et dans leur collimateur, il leur reste nos sales gueules. Quand la justice dresse ses plombs au bûcher, que la chasse aux sorcières est ouverte et déclarée, à force de faire peur, ils contrôlent ce qu'ils veulent et dans leur collimateur, il leur reste nos sales gueules.
Qu'est-ce qu'on fait depuis le début, dit que ça va pas, c'est pas bien, etc. On va essayer de finir sur une note un petit peu plus positive. Les abolitionnistes et les réflexions féministes au sein de l'abolitionnisme partent à la fois, lorsqu'on parle spécifiquement, hein, des violences commises contre les femmes, disent on a affaire à des crimes de masse. Autre statistique marquante, hein, on estime en général dans les pays occidentaux qu'un homme sur 20 a commis un viol. Je parle de viol au sens de la définition qu'on a aujourd'hui dans le code pénal. 5%, c'est beaucoup. Lorsqu'on regarde les agressions à caractère sexuel, on monte à plus de 10%. Donc on a affaire à quelque chose qui est finalement relativement commun et qu'il faut prendre comme tel, hein, comme un crime de masse. Et ce que l'on sait aussi des situations historiques dans lesquelles les sociétés humaines ont eu affaire à des crimes de masse, c'est qu'il est quasi impossible de punir tout le monde. à la fois de façon matérielle, hein, puisque je vous dis, là, l'idée, ce serait de mettre 5% des hommes en prison. Est-ce qu'on est prêt à ça ? Ça fait quand même beaucoup de monde, hein. Ça fait même peut-être 10%. Bon, et puis, l'impact que ça va avoir sur la vie des femmes. Alors, des approches non punitives, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire demain matin, on abat les prisons, et puis chacun pour soi, et on se défend si on peut. Hein, le projet n'est pas celui de propager l'autodéfense au niveau individuel, mais c'est de se dire de quelle manière, collectivement, on peut prendre en charge ces faits dont on reconnaît la gravité, et puis comment partir pour l'essentiel des besoins des victimes. Les besoins des victimes sont, à mon avis, au centre du projet abolitionniste et permettent de faire une critique extrêmement radicale du système pénal. Pourquoi ? Parce qu'on dit en général que les victimes ont besoin de vérité. Les victimes ont besoin de savoir ce qui s'est passé. Les victimes ont aussi besoin de reconnaissance, d'être reconnues dans leur statut de victime. C'est aussi pour cela que je pense que ça peut être légitime d'employer ce mot de victime. Elles ont besoin de sécurité, elles ont besoin de savoir qu'elles ne vont pas être à nouveau victimes de ce type de fait. Et puis elles ont besoin de donner du sens à leur épreuve, donner du sens à ce qui s'est passé. Lorsqu'on regarde ces besoins, qui sont des besoins, encore une fois, parfaitement légitimes, et qu'on regarde de quelle manière le système pénal répond à ces besoins, bah on voit qu'il y répond assez mal. Le besoin de vérité, c'est en partie l'auteur qui a une possibilité hein, de reconnaître l'étendue des faits, de reconnaître sa gravité. Et le procès pénal n'est pas favorable à l'émergence de la vérité. Il permet une certaine vérité, on parle d'ailleurs de vérité judiciaire, ce qui est parfois une vérité très éloignée de la vérité de la victime. Pourquoi ? Parce que la personne qui est poursuivie a tout intérêt à se défendre, à minimiser sa responsabilité, à minimiser les faits, hein, dire qu'il y a eu un coup de couteau plutôt que deux, etc., etc. Donc cette vérité, elle n'émerge pas forcément au moment du procès. C'est parfois par là que les victimes sont blessées au moment du procès. On entend souvent des victimes être très en colère parce que l'auteur n'a pas reconnu vraiment les faits. Le besoin de reconnaissance, il peut venir de la décision de justice. Hein, lorsqu'il y a une peine qui est prononcée, les victimes peuvent se dire « je suis enfin reconnue comme victime ». Mais on est dans un état de droit où, heureusement, les auteurs ne sont pas systématiquement condamnés parce que certains auteurs ont des problèmes de santé mentale. Et puis, il y a énormément de faits pour lesquels il n'y a pas d'auteurs qui sont retrouvés. Il y a des auteurs qui sont morts et donc il y a beaucoup de victimes pour lesquelles, même s'il y a procès, il n'y aura pas de reconnaissance de leur statut de victime. Et puis, qu'est-ce qu'on offre à toutes les victimes pour lesquelles il n'y a pas de procès hein, donc, vous voyez, là, c'est sur ce besoin de reconnaissance. Les victimes ne sont pas forcément satisfaites de la procédure pénale. Il y a ensuite ce besoin de sécurité. Alors vous me direz, mais lorsque quelqu'un est incarcéré, normalement, automatiquement, la victime devrait avoir un sentiment de sécurité. C'est pas vraiment le cas. Pourquoi ? Parce que y a des auteurs qui ressortent, il y a des auteurs qui peuvent faire des menaces, même lorsqu'ils sont derrière les barreaux. Et puis surtout, lorsqu'on a été victime de faits extrêmement graves, on peut savoir rationnellement qu'un auteur est derrière les barreaux, mais on peut avoir peur d'être à nouveau victimisé par quelqu'un d'autre. Et donc ce sentiment d'être vulnérable, c'est souvent exprimé par les victimes qui peuvent dire « je sais bien, il a été condamné, mais ça n'empêche pas, je continue à avoir peur. Hein, je continue à avoir peur dans mes relations sociales, dans mon intimité, lorsque je me promène dans la rue, etc. » Donc ce besoin de sécurité, il est aussi pas forcément satisfait par le système pénal. Et puis, enfin, ce besoin de donner du sens, alors qu'il est beaucoup lié au besoin de réparation. Et là aussi, le système pénal est assez faible sur cet aspect. Pourquoi ? Parce que le système pénal, son but, c'est de désigner un responsable. Hein. Le système pénal est basé sur ce principe-là, hein, d'avoir un fait, et puis de trouver un auteur, et puis de désigner une responsabilité individuelle. Le système pénal, il ne vous dit pas... Vous avez effectivement été victime d'un viol. Ce viol s'inscrit dans un système patriarcal. C'est la culture du viol. C'est le résultat de la domination entre les hommes et les femmes. Il vous dit simplement, oui, vous avez été victime d'un viol et cette personne est condamnée à tant d'années de prison. C'est ce qu'on appelle, nous, le caractère rétributif de la justice. C'est-à-dire que pour un fait, une victimation, il va donner une peine, des années de prison ou une amende, etc. Mais cette idée qu'il y a une rétribution, qu'il y a une sorte d'équivalence entre un tort d'un côté, un préjudice, et puis une peine, le caractère punitif du système carcéral. Et les abolitionnistes repartent de ces besoins. Ils repartent de ce besoin de vérité, ce besoin de sécurité, de reconnaissance, ce besoin de donner du sens à une épreuve. Et ils disent, mais en fait, on peut faire mieux que le système pénal. On peut faire mieux parce que aujourd'hui, le système pénal, bah, finalement, quand on regarde tout, comment il fonctionne, bah, il a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Hein. Il criminalise certaines populations, il protège certes certaines femmes, mais en même temps, hein, pour les victimes, ce qu'il apporte est quand même relativement limité. Et donc, bah, j'en arrive à la toute fin, à cette proposition que font les abolitionnistes, mais qui en même temps est une des propositions abolitionnistes. En tout cas, c'est celle que j'ai voulu partager dans ce livre parce qu'elle est essentiellement développée aux États-Unis et je trouvais ça intéressant de faire circuler ces pratiques militantes. C'est ce qu'on appelle la justice transformative. Alors, en France, on connaît davantage l'expression de justice réparatrice. Et du coup, je vais un petit peu expliquer ce qu'est la justice réparatrice et vous montrer les apports de la justice transformative par rapport à cela. La justice réparatrice, elle s'est développée à partir des années 70 en partageant une bonne partie des critiques faites par l'abolitionnisme pénal au système pénal. La justice réparatrice part de l'idée que la punition et ce qu'on peut penser de façon un peu plus générale, le besoin de vengeance, le sentiment de vengeance qui arrive très souvent dans les cas de victimation et notamment les cas de victimation les plus graves, n'est pas ce qui permet à moyen et à long terme de grandir d'un parcours de victimation. C'est-à-dire, en d'autres termes, que la haine n'est pas suffisante et que les victimes des actes les plus graves racontent souvent que leur propre parcours est lié alors parfois à des formes de pardon, mais il ne s'agit pas d'attendre des victimes de pardonner, mais plutôt de donner du sens, de permettre d'être dans autre chose que la haine. Chose qui peut se faire de multiples façons. Hein, ça peut être parfois des formes de création, des formes d'engagement, des formes de restauration du lien social. Et c'est aussi pour ça qu'on emploie parfois l'expression de justice restaurative, donc avec cette idée de restaurer le lien social. Les pratiques de justice réparatrice, elles se sont donc développées à partir des années 70. Alors avec des cas qui peuvent paraître extrêmement simples, si je vous parle d'une dégradation d'un mur, bah, c'est assez simple de penser la réparation, il faut réparer le mur. Mais peut-être qu'il faut faire un peu plus que réparer le mur parce que bah, en fait, c'était ennuyeux de découvrir un matin le mur qui était endommagé. Et puis bah, peut-être que vous aviez fait une belle fresque qui était liée à quelque chose de personnel et que donc il ne s'agit pas simplement de le repeindre, hein, mais que vous avez perdu un peu plus que ce qui a été dégradé. Et donc, c'est vrai qu'on arrive assez facilement à penser la réparation lorsqu'il s'agit des biens matériels. Mais la réparation, elle est également importante lorsqu'on parle des violences interpersonnelles, tout ce qui engage à la fois le corps et le bien-être physique de façon plus directe. Et là aussi, même si je sais que c'est parfois moins intuitif, il y a eu beaucoup d'expériences de justice réparatrice qui ont été menées, alors avec divers formats. Hein, ça peut être des rencontres entre auteurs et victimes. Et là aussi, il ne s'agit pas de le lendemain d'une d'acte grave de dire bah, on va se rencontrer puis on va parler. Il ne s'agit surtout pas de ça. Il s'agit toujours de la victime qui peut décider du moment pour laquelle cette rencontre lui est opportune. Ce qui peut sembler parfois, encore une fois, assez étrange lorsqu'on n'a pas d'expérience de victimation grave, mais en fait, c'est finalement une demande assez commune des victimes, hein, y compris dans des cas d'homicide, où elles vont dire, mais finalement, elles veulent rencontrer l'auteur, elles veulent l'entendre. Donc, il peut y avoir des rencontres entre auteurs et victimes. Il y a parfois des rencontres entre des victimes et des auteurs, mais qui ne sont pas liées par des faits. Hein. Par exemple, des rencontres entre des victimes d'inceste et des auteurs d'inceste, hein, mais donc qui ne se connaissent pas, mais qui permettent à la fois aux victimes, mais aussi en fait aux auteurs, de comprendre de quelle manière ils ont blessé et blessé leurs victimes. Parce que, bah, vous l'imaginez bien, la prison aujourd'hui n'est pas vraiment un espace où les auteurs ont cet espace-là et sont confrontées à cette parole-là.
L'extérieur est hostile, même entretenu par de valeureux paysagistes qui plantent des fleurs partout. Le pouvoir de ce pays tient sur une grosse machine à laver. Les Émiratiens savent bien comme c'est tortionné retraité. On tient à la baguette, un peuple heureux de travail. 4 générations de permis, c'est sans naturalisation. Des propagandes en liesse, couleur va fenaissesse, n'ont de cesse de confirmer, nous dire depuis tant d'années. Me parle de cohérence, s'il s'agit de marcher droit ou de faire allégeance à des couloirs bien trop étroits. Je sais d'où je viens, où je vais, c'est suffisant pour moi. Et j'ai de leçons à recevoir de personne, dis-toi bien ça. La guerre est froide, voire de basse intensité. Qui souhaite nous prouver le contraire prépare ses arguments. Vu la pègre et les requins qui scrutent sur les bas-côtés, pas de raison pour nous de se comporter aimablement. Ils en prennent un pour l'exemple, une centaine file derrière. La dissuasion tient la rampe de l'autre côté de la barrière. C'est au pied du mur pour qu'on ait les vrais dieux. Pour le reste, c'est les sacs que je mesurais le contenu du disque dur. Laisse derrière toi ceux qu'on décide de traîner pas dans des guerres intestines entre coups dans le dos et coups bas. On n'a plus le temps pour ce genre de choses. Et pour les bâtons dans les roues, tu sais ce qu'on propose.
Donc la justice réparatrice, je pense que voilà, vous avez compris le principe. En même temps, ce qui s'est observé, voilà, années 70, 80, au développement de ce type de pratique, et de plus en plus, le système pénal a intégré ce genre de pratique, beaucoup plus tardivement en France. Hein, c'est venu pour l'essentiel avec la réforme Taubira, hein, où maintenant, on a dans les prisons françaises des rencontres qui se font entre auteurs et victimes, par exemple. Et face à cela, à partir des années 2000, et essentiellement dans des communautés extrêmement marginalisées aux États-Unis, mais aussi au Canada, s'est développée donc ce qu'on appelle la justice transformative. On part donc de communautés, pour l'essentiel de communautés de minorités raciales, donc des Africains américains, des Latinos, pour l'essentiel, aussi des communautés LGBT, des travailleurs et travailleuses du sexe. Hein, c'est l'essentiel des personnes qui se sont engagées dans ce type de justice transformative, qui sont, pour tout un tas de raisons, qui sont liées à la race, qui sont liées à leur vulnérabilité sociale, hein, quand on pense aux travailleuses du sexe, par exemple, mais aussi des personnes LGBT, qui savent que lorsqu'elles sont victimes, elles ne vont pas pouvoir porter plainte, parce qu'elles risquent d'être à nouveau victimisées, voire d'être davantage criminalisées. Et donc, dans ces communautés, il y a eu cette réflexion de, on a des besoins, on a nos besoins de victimes, hein, ces besoins que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, on sait que le système pénal n'est pas là pour nous protéger, voire on risque d'être criminalisé si on a recours au système pénal. Et donc, dans ces communautés, se sont développées des pratiques, alors qui ressemblent beaucoup aux pratiques de justice réparatrice, sauf que l'idée, c'est d'être à l'extérieur du système pénal. Et donc, de créer des procédures qui donc ne sont pas dans ce face-à-face auteur-victime que l'on connaît dans le système pénal, mais plutôt d'emmener ensemble à la fois un auteur, une victime, et puis des personnes ressources, des personnes qui sont liées à la fois à l'auteur et aux victimes. Et là encore, il ne s'agit pas d'un acte grave de dire on se réunit et puis on trouve une solution. Hein. Il s'agit de procédures extrêmement longues qui sont aussi individualisées. Et là aussi, on est dans une grande différence du système pénal. Hein. Le système pénal, il a son temps judiciaire, hein, avec des convocations, etc., qui ne s'ajustent pas aux besoins des victimes. Là, on est dans des procédures qui sont personnalisables. Et puis, c'est l'idée d'être dans la réparation, mais aussi dans la transformation. Transformation de ce qui a rendu possible l'acte. Donc c'est pour ça qu'il y a à la fois une dimension extrêmement concrète à la justice transformative. Les abolitionnistes états-uniens disent, j'aime beaucoup cette formule, hein, parce qu'on reproche parfois à l'abolitionnisme d'être un utopisme, mais ils disent, nous avons besoin de cette justice-là, hein, parce que cette justice qui se fait dans ces communautés-là répond à leurs besoins en tant que victimes. Hein. Vous voyez, c'est extrêmement concret, parce que s'ils n'ont pas ça, ils n'ont rien en fait. Ils n'ont rien en tant que victimes, donc ça répond à des besoins. Et puis en même temps, c'est bien l'idée qu'on touche en fait à l'organisation de la société, hein, et de finalement tendre vers une autonomisation, de régler nos propres problèmes et d'apprendre à les régler. Ce qui me permet de dire aussi autre chose, c'est que lorsque aujourd'hui on parle d'abolition du système pénal, d'abolition de la prison, ça provoque souvent un sentiment de surprise ou d'étrangeté, parce que aujourd'hui il y a une évidence qu'on a la police, on a la prison, et puis que tout le monde s'en porterait mieux. En fait, il s'agit là quand même d'une anecdote, hein, dans l'histoire de l'humanité. Les sociétés humaines ont toujours eu des systèmes pour régler les conflits. Il n'y a pas de vie en société sans gestion des situations problématiques. Donc il y a toujours eu et il y aura toujours des manières de régler, hein, les conflits, les comportements problématiques dans les sociétés humaines. Par contre, la prison, hein, 2-3 siècles d'existence, extrêmement liée à un contexte, au contexte occidental, hein, la prison, souvent elle est née avec le capitalisme, elle s'est exportée avec l'histoire coloniale, hein, donc il y a une responsabilité notamment de la France à avoir propagé le système carcéral, notamment en Afrique et puis qui s'appelait avant l'Indochine. Mais donc on est dans un système qui est aujourd'hui, qui semble un horizon, mais qui est à la fois situé dans l'histoire et dans la géographie. Ce qui me permet aussi de dire que l'abolitionnisme n'est pas quelque chose qui s'apprend, et mon livre n'est surtout pas un manuel de comment être un bon abolitionniste, parce que en fait, tous les jours, on pratique des façons de résoudre nos conflits sans recourir à des institutions. Hein, tous les jours, on se rend compte qu'il y a quelque chose indifférent avec une personne, et puis notre premier réflexe, c'est pas d'appeler la police. Alors ça, on le voit très particulièrement lorsqu'il s'agit d'éducation des enfants, et parfois avec des comportements qui peuvent être très problématiques, hein. Mais si vous avez un enfant qui vole ses parents, je pense qu'on est, en tout cas j'espère qu'on est à peu près tous d'accord ici, que le premier réflexe, ça va pas être d'appeler la police. C'est-à-dire que s'il y a un vol qui est commis au sein d'une famille, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème, et il serait sans doute beaucoup plus judicieux de se mettre autour d'une table. Et puis il y a parfois des situations familiales compliquées, alors peut-être qu'on va demander à une grand-mère ou à une tante de venir se mêler à la conversation. Et puis, on va finir par poser quand même une question qui est importante, qui est celle de bah, pourquoi tu as fait ça ? Puis, peut-être en fait qu'il faudrait que tu aies de l'argent de poche, ou peut-être qu'il faudrait que tu comprennes comment, d'où vient l'argent et comment on le dépense en tant que famille, etc. Alors, quand on fait ça, tout en reconnaissant la gravité de certains faits, hein, je ne suis pas en train de vous dire que d'être abolitionniste, c'est de se dire on pardonne tout et puis le monde s'en portera mieux. Ce que je vous dis, c'est que dans le cadre familial, on a finalement quand même cette habitude de se dire bah oui, des fois, il y a des choses qui sont extrêmement graves, mais en fait, il y a un lien qui me semble tellement important que finalement, bah, je veux le préserver. Qu'on essaie de faire les deux choses ensemble, que c'est souvent compliqué, que c'est parfois frustrant, que c'est parfois extrêmement énervant, parce que voilà, des proches peuvent ne pas reconnaître l'étendue du tort qui a été commis, etc. Mais il y a ce travail, souvent fait maladroitement, mais où on se dit on va pas couper le lien social parce que l'essentiel, c'est de préserver la cohésion. Et donc voilà, c'est d'être abolitionniste, c'est de se dire aussi que l'on a un savoir, hein, que les sociétés humaines ont ce savoir-là et qu'on a ce savoir-là à l'échelle individuelle. Ce dont on parle beaucoup autour de ces pratiques de justice transformative, c'est aussi ce qu'on appelle les cercles de responsabilité, qui me semble une pratique assez intéressante, qui existe de façon formelle, par exemple au Canada ou aux États-Unis. C'est l'idée d'entourer quelqu'un, un auteur. Alors, ça peut être, quand c'est formalisé, ça peut être quelqu'un qui est passé par la prison, hein, qui a été puni et qui sort de prison. Mais ça peut être aussi quelqu'un pour qui on pense qu'il y a des risques de commettre des faits. Hein. Donc, ça peut être très concrètement quelqu'un qui a déjà été auteur d'agressions sexuelles et puis on craint un passage à l'acte plus grave. Et c'est l'idée, alors, qui repose sur le principe que je trouve personnellement très beau, qui est celui de l'hospitalité radicale. Cette expression, elle dit bien, en fait, qu'on part de l'idée qu'on va aller de façon radicale vers des personnes vers lesquelles, bah, pour des raisons émotionnelles, on aurait tendance à s'éloigner. Et c'est aussi ce qu'on connaît beaucoup dans nos milieux, hein, d'exclusion de personnes, alors qui partent évidemment de l'intention de protéger, mais qui en même temps font que l'auteur ou la personne qui a commis des agressions, bah, en fait, n'a aucune ressource autour de lui, aucune ressource sociale pour le faire bouger. Et donc, c'est cette idée de cercle de responsabilité, c'est de dire, bah, on va être un groupe de 5-8 personnes, et puis on va entourer la personne, parce qu'on sait aussi que le moindre devis social aussi favorise les passages à l'acte. Hein, on le voit sur les agressions sexuelles, que le passage à l'acte peut arriver dans des moments où les personnes sont extrêmement désocialisées. Alors là, je fais une petite parenthèse, mais le durcissement aux États-Unis de l'encadrement des personnes condamnées pour violences sexuelles font que leur vie sociale est extrêmement compliquée, hein, difficulté d'accéder au travail, difficulté d'accéder au logement. Donc on a en fait aux États-Unis des campements, hein, de mobile home avec des personnes qui sont donc des personnes qui ont purger des peines liées à des agressions sexuelles, etc., qui n'ont d'autres possibilités que de se loger, hein, dans des caravanes, des mobilhomes, etc., sans avoir de travail, etc. Et en fait, on sait que ça, c'est contre-productif. On sait que, en fait, ce dont on a besoin pour faire diminuer les agressions sexuelles, on a besoin d'agir sur la personne pour transformer à la fois ses représentations, ses valeurs, mais aussi ses pratiques. Parce que il y a un certain nombre d'auteurs qui, en fait, savent très bien comment va se passer leur passage à l'acte. Ils savent qu'ils sont dans une situation où ils sont susceptibles de passer à l'acte. Et donc, le cercle de responsabilité, il va travailler là-dessus. Il va travailler sur comprendre le passage à l'acte, comprendre ce qu'il favorise, et donc permettre aussi à l'auteur de dire, bah là, je suis dans un moment de ma vie où je sens que, enfin, j'ai ces pensées-là, je suis susceptible de passer à l'acte, etc. J'ai besoin d'aide. Et vous voyez très bien qu'aujourd'hui, dans la société française, notamment lorsqu'on parle de pédophilie, on est sur cette approche extrêmement punitive, tout en sachant très bien que c'est quand même bien une chose d'avoir des fantasmes pédophiles et d'avoir des passages à l'acte pédophile, et qu'en fait on parle pas du tout de la même proportion de personnes, qu'il y a heureusement beaucoup beaucoup plus de personnes qui ont des fantasmes pédophiles que des passages à l'acte, mais qu'en même temps les gens qui font des passages à l'acte ont des fantasmes pédophiles. Aujourd'hui, si vous avez des fantasmes pédophiles, où est-ce que vous allez? Où est-ce que vous allez et à qui vous en parlez? À qui vous en parlez d'avoir ces pensées-là et cette idée que vous risquez de passer à l'acte. C'est déjà extrêmement difficile socialement d'en parler à des proches, etc. Et donc, ces cercles de responsabilité, et donc cette idée d'une hospitalité radicale, c'est de dire, bah, qu'on accepte aussi cette parole-là. Cette parole qui peut être extrêmement dérangeante, qui peut être perturbante, qui peut dégoûter, etc. Mais de se dire, en fait, si les personnes n'ont pas d'espace pour cette parole-là, bah, aussi, on encourage ce risque de passage à l'acte. Donc ça, c'est aussi des choses qui peuvent se mettre en place de façon informelle. Alors c'est compliqué, etc. Hein, mais c'est aussi un outil concret. Or qu'on peut aussi, là je parlais plus spécifiquement des agressions à caractère sexuel, mais qui peuvent aussi être dans le cas de personnes qui ont des comportements violents. Et d'une certaine façon, c'est aussi se réapproprier des choses que l'on connaît très bien. On sait très bien que Gérard, quand il a trop bu, et puis quand on est dans un bar, bah, c'est vrai qu'il vaut mieux être un peu autour de lui parce qu'on sait qu'il a tendance à se taper. Bon, ben voilà, on le fait de façon informelle sans appeler ça un cercle de responsabilité. Après, on peut le faire de façon beaucoup plus formelle pour des gens qui ont des passages à l'acte extrêmement graves, etc. Bah, vous voyez déjà deux difficultés qui sont, bah, qu'on est dans des procédures collectives, des procédures dans lesquelles ça implique beaucoup de monde, puisque lorsqu'il s'agit d'impliquer par exemple un auteur de viol, bah, pour engager cet auteur dans une procédure collective, il va falloir que d'autres hommes fassent pression sur cet homme. Hein, les femmes peuvent faire pression, mais on sait aussi que ça joue beaucoup sur les amitiés, les solidarités masculines, etc. Donc ça veut dire engager du monde autour de l'auteur, engager du monde autour de la victime, et que à chaque fois, bah, c'est différent. C'est-à-dire que vos besoins ne sont pas mes besoins, votre communauté n'est pas ma communauté. Selon le type d'acte, on va avoir des besoins de ressources différentes. Hein. S'il s'agit d'un acte raciste, on ne va pas avoir les mêmes besoins de ressources que pour un acte homophobe, etc., etc. Et puis l'autre dimension que l'on perçoit également très vite, c'est que ça demande du temps. ça demande énormément de temps. Et là, on touche à quelque chose qui est aussi essentiel dans la critique abolitionniste, c'est que le système pénal, il est très utile dans une société capitaliste. Dans le sens où la société capitaliste dans laquelle on est censé travailler et passer pas mal de temps à ça, fait qu'on n'a pas beaucoup d'autre temps pour s'occuper à la fois de nos problèmes et puis des problèmes des gens que l'on connaît, de nos voisins, etc. C'est-à-dire que si après votre journée de travail, vous avez des suspicions qu'il y a des violences qui sont commises à l'encontre d'un enfant chez vos voisins, il est peut-être beaucoup plus simple d'appeler un numéro de signalement, puis de vous dire que la police va faire son travail, et puis vous, ça va vous prendre peut-être un quart d'heure, une demi-heure, mais une fois que vous aurez fait cela, vous en aurez terminé. La justice transformative, elle dit, en fait, on va sortir de cette délégation de la gestion de nos problèmes à des professionnels et à des institutions, et puis on va s'occuper de nos problèmes. Alors, ça veut dire changer aussi les liens sociaux, puis ça veut dire prendre du temps, ça veut dire prendre parfois même beaucoup de temps, c'est parfois des mois, et puis quand on réfléchit au fait que, par exemple, si on parle d'un viol, il ne s'agit pas simplement d'une responsabilité individuelle. Certes, il y a une responsabilité individuelle, mais elle s'inscrit dans des rapports sociaux plus larges. Comment on change ces rapports sociaux ? Ces pratiques-là sont liées aussi à des ressources communautaires, des ressources militantes, et que tout le monde n'a pas ces ressources-là. Donc c'est aussi l'idée de développer du lien social pour permettre à davantage de personnes d'accéder à ces formes de justice. J'ai une position critique de la critique qui en est faite. C'est-à-dire que je la connais bien, cette position des hommes qui viennent dire « Vous reproduisez la justice pénale, vous êtes pire que les keufs et finalement, vous restreignez notre sociabilité, etc. » Je pense qu'on l'a tout entendu et que oui, vous reproduisez l'exclusion, etc. Et on est d'accord qu'il s'agit là quand même d'une critique assez ridicule parce que là, ils nous parlent de lieux de sociabilité qui sont, comme tu disais, trois squats de librairie, le reste de la ville est à eux. Donc, on est d'accord que là, il s'agit... Enfin, voilà, que leur argument n'est pas un argument pertinent, surtout qu'ils ne s'intéressent jamais à l'accès à la sociabilité d'autres personnes que leur propre accès à la sociabilité. Ils se disent... C'est rarement des gens qu'on a vus s'interroger sur l'accessibilité aux personnes non valides des squats, etc. Mais d'un coup, là, l'accessibilité de leur propre personne à ce squat, là, d'un coup, ça devient extrêmement important. Moi, je suis pas dans une position de dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, mais en tout cas, je pense que c'est quand même important de revenir quand même sur cette critique qui nous est faite parfois en tant que féministe, engagée dans des lieux militants, où on fait ce bricolage, en reconnaissant que c'est certes du bricolage, mais qu'en même temps, il s'agit de se défendre. Et que c'est quand même si c'est limité et c'est insatisfaisant, mais en même temps, c'est quand même bien notre priorité de se défendre. Et que donc, là-dessus, il n'y a pas à discuter. Alors après, est-ce que tu évoques le fait que, oui, c'est insatisfaisant, mais qu'effectivement, c'est du travail, et que c'est encore du travail qui risque de revenir aux femmes. Je pense qu'il faut partir de là. Alors, je peux comprendre individuellement qu'on se dise « Mais en fait, moi, la pédagogie, moi, m'engager là-dedans, c'est ni mon moment, ni là où j'en suis dans ma vie. » Pour moi, c'est parfaitement entendable. Par contre, je pense que collectivement, il faut dépasser ce besoin individuel d'un moment de se retirer d'un collectif, se concentrer sur ses propres besoins. Parce que je pense que collectivement, par contre, on ne peut pas porter juste une exclusion et puis dire « C'est satisfaisant politiquement. » Après, on peut le décider collectivement parce qu'on n'a pas d'autres sources, mais il faut quand même reconnaître que c'est insatisfaisant. Parce que, comme tu le disais, la situation, elle n'a pas changé. Alors après, qu'on n'ait pas les ressources à un moment donné en tant que collectif individuellement ou individuellement, ça s'entend. Mais c'est sûr qu'il manque quand même ce travail collectif auprès d'un auteur et puis de prévention de comment on fait mieux. Et ça, je pense qu'il faut le reconnaître quand même que c'est parfois des manquements qu'on a.
quand la justice dresse ses plus hauts bûchers, que la chasse aux sorcières est ouverte et déclarée. À force de faire peur, ils contrôlent ce qu'ils veulent et dans leur collimateur, il leur reste nos sales gueules. Quand la justice dresse ses plus hauts bûchers, que la chasse aux sorcières est ouverte et déclarée. À force de faire peur, ils contrôlent ce qu'ils veulent et dans leur collimateur, il leur reste nos sales gueules.
Parce que l'abolitionnisme pénal ne peut être qu'inachevé, selon l'expression de Thomas Mathiessen, nous cheminons vers une destination un peu floue. Notre chemin est semblable à tous ceux que l'on doit prendre sans avoir de carte et au long desquels on peut être tenté par des chemins de traverse. À mesure qu'on avance sur ce chemin, le paysage apparaît sous de nouveaux angles et on s'aperçoit parfois qu'on a fait fausse route. Pour nous les femmes, ce chemin est semé d'embûches. Parce que nous portons bien souvent plus que la moitié du ciel. Parce que celles d'entre nous qui ont marché à l'ombre des murs savent que le chemin est long. Surtout si elles portent en elles le souvenir de ceux et celles qui ont laissé la vie. J'ai écrit ce livre comme on s'arrête sur le bord du chemin. Pour contempler les efforts de ceux et celles qui l'ont tracé, jusqu'où nous l'avons seulement repris. Je l'ai écrit comme on pose une pierre sur son chemin pour se souvenir des lieux où on est passé. Je l'ai écrit malgré les silences et les cris. Je l'ai écrit en me rappelant que la part de ceux et celles qui nous ont précédés et que nous portons en nous est notre force et qu'elle grandit irrésistiblement au fil de ce chemin qui nous mène, cas à un, vers un monde sans prison. J'ai écrit ce livre pour toutes les femmes avec qui j'ai fait un bout de chemin et pour celles que j'ai seulement croisées. Je n'aurais pas pu l'écrire sans vous toutes, celles à qui on n'a jamais rendu justice, celles qui sont derrière les murs et celles qui sont aux portes des prisons. Vous toutes dont les doutes, les peurs, les colères et les espoirs fait que mon cœur a ses raisons et qu'il bat contre toutes les prisons.
Entre le feu et la glace, il y a nous, nos parcours chaotiques et des asiles de fous, des mauvaises graines semées aux grandes dames de leurs écoles qui nous promettent sans vergogne un avenir décapité, poiscaille charcutable. Taillable et malléable, et des flics alcooliques qui attendent que de se mettre à table. Des bâtards de cobayes, voilà ce qu'on a fait de notre sort. T'étonnes pas qu'on s'en aille ailleurs écrire le carnet de bord. Acharnement judiciaire, contrôle musclé. Croire qu'on cherche à plaire serait la thèse la plus erronée. Au milieu de ça, rien, on observe de près, de loin. Les années qui s'écoulent à cogiter comme des chiens. Les techniques sont variées, certains ont la fibre de boucher et d'autres opèrent en chirurgien confirmé. Il s'agirait de terrorisme et de sabotage, d'intégrisme, d'extrémisme et de brigandage. T'inquiète, ils ont trouvé le moyen de te faire taire à coups de recommandés ou de spots publicitaires. Quelques âmes charitables dans le milieu de la police ne parviendront pas à faire peser le balancier hors du vice. Alors, tu veux que je te réponde quoi? Qu'accomplir son sale boulot relève encore du bon droit. Ferme-la, pas de théorie bien pensante. Je commence à comprendre les règles de ce jeu dont ils sont partie intégrante. Quand la justice dresse ses plus hauts bûchers, que la chasse aux sorcières est ouverte et déclarée. À force de faire peur, ils contrôlent ce qu'ils veulent et dans leur collimateur, il leur reste nos sales gueules. Quand la justice dresse ses plus hauts bûchers, que la chasse aux sorcières est ouverte et déclarée. À force de faire peur, ils contrôlent ce qu'ils veulent et dans leur collimateur, il leur reste nos sales gueules. L'extérieur est hostile, même entretenu par de valeureux paysagistes qui plantent des fleurs par-dessus. Le pouvoir de ce pays tient sur une grosse machine à laver. Les Émiratiens savent bien comme ces tortionnaires retraités. On tient à la baguette un peuple heureux de travail. 4 générations de permis, c'est sans naturalisation. Des propagandes en liesse, couleur va fenaissesse, non de cesse de confirmer nos dires depuis tant d'années. Me parle plus cohérence s'il s'agit de marcher droit ou de faire allégeance à des couloirs bien trop étroits. Je sais d'où je viens, où je vais, c'est suffisant pour moi. Et j'ai de leçons à recevoir de personne, dis-toi bien ça. La guerre est froide, voire de basse intensité. Qui souhaite me prouver le contraire prépare ses arguments. Vu la pègre et les requins qui scrutent sur les bas-côtés, pas de raison pour nous de se comporter aimablement. Ils en prennent un pour l'exemple, une centaine file derrière. La dissuasion tient la rampe de l'autre côté de la barrière. C'est au pied du mur pour qu'on ait les vrais dieux. Pour le reste, c'est les sacs que je mesurais le contenu du disque dur. Laisse derrière toi ceux qu'on décidé de traîner pas dans des guerres intestines entre coups dans le dos et coups bas. On n'a plus le temps pour ce genre de choses. Et pour les bâtons dans les roues, tu sais ce qu'on propose. Quand la justice dresse ses plus hauts bûchers, que la chasse aux sorcières est ouverte et déclarée. À force de faire peur, ils contrôlent ce qu'ils veulent et dans leur collimateur, il leur reste nos sales gueules. Quand la justice dresse ses plus hauts bûchers, que la chasse aux sorcières est ouverte et déclarée. À force de faire peur, ils contrôlent ce qu'ils veulent et dans leur collimateur, il leur reste nos sales gueules.